parce qu'ils l'ont remonté ce matin. Il faut dire que la météo est quand même un peu favorable qu'il y a à la même heure. Ils ont ainsi déjà sorti un peu plus de chez soi. On va démarrer tranquillement. Je pense que Jean-Luc va nous rejoindre incessamment sous peu. On va s'intéresser à cette table ronde très fantasy, mais avec, vous verrez, des romans qui sont et des univers qui sont sensiblement différents les uns des autres. Avec une question que nous allons poser, qui est la question du destin de ces personnages. Alors ça peut paraître un peu léger, un peu pas forcément très précis, mais vous le verrez, mine de rien, à travers les différents personnages qui sont développés dans les romans de nos auteurs présents autour de la table, eh bien nous allons avoir pas mal de destins, et de destins surtout qui ne sont pas forcément très bien contrôlés, parce que c'est aussi ce que sous-entend cette thématique, et la difficulté de reprendre son destin en main et de pouvoir mener sa vie comme on l'entend, parce qu'en fantasy, les personnages sont vraiment ménagés. Je vais commencer par la question piège, comme ça sera fait. Quelle est votre définition du destin d'un mi-auteur de fantasy qui est autour de la table, qui veut démarrer?
Je suis sûr qu'il y a un micro. Alors, la fantaisie bénéficie d'un avantage net sur d'autres types de littérature, c'est qu'on peut incarner physiquement des concepts vrais. Le destin en étant. C'est-à-dire que le destin peut être incarné par un personnage qui a dit il faut que tu fasses ceci.
Figure, concept vrai. C'était ça l'expression que je cherchais.
Donc la fantaisie permet de le faire. Elle permet aussi d'incarner le mal physiquement. On peut représenter une maladie physiquement. En fait, on peut le faire. Donc le destin n'échappe pas à la règle. Et donc il peut être incarné par un personnage, par un objet, par un lieu, par une tradition. Enfin, il peut être vraiment, vraiment facilement identifiable. Même si ce n'est pas dit dans le texte, mais un peu d'analyse, un peu de réflexion, et on remarque que tel ou tel élément de la narration sert à faire ça. En fantasy, en plus, le destin est assez important, puisque dans les lois, dans les règles, dans les étapes du récit mythologique, il y a en général le début de l'aventure, c'est justement c'est l'appel à l'aventure, et en général c'est le destin du personnage qui est tel. Thème classique, alors, bon, tout le monde l'a vu, mais ça vaut pour plein de récits, et souvent même ceux que nous écrivons, et en le faisant consciemment ou inconsciemment, la première étape de la narration, donc, c'est un personnage ou un élément déclencheur qui fait qu'il y a un appel à l'aventure pour le héros. Traditionnellement, le plus évidemment possible, dans la Guerre des Étoiles, un nouvel espoir, c'est Obi-Wan Kenobi qui vient voir Luke Skywalker et puis qui lui dit, voilà, il faut que tu fasses ça. Quoi. Et la deuxième étape traditionnelle du récit mythologique, c'est le héros dit non. Donc la première étape, c'est un refus du destin. Donc, ne serait-ce que par définition en creux ou par opposition, il y a forcément un destin, puisqu'en général, ça commence par non, j'y vais pas, je veux pas. Ou sur le cœur, il dit non, je veux pas, j'ai mes sommeils, j'ai mes boissons, je peux pas partir faire la guerre dans l'espace. Ensuite, la troisième étape, bien sûr, c'est un moment où le héros est quand même obligé de continuer par choix ou par force ou par choix. Là, en l'occurrence, en général, ça se manifeste par un rasage de village, un massacrage de région, enfin, un truc dans le genre, qui fait que le gars se dit bon, il faut quand même que j'y aille. Et alors, ce qui est assez amusant, et je finirai là-dessus, enfin, dans un premier temps, je vais reprendre le crash, ne vous inquiétez pas. Juste en venant, j'ai discuté avec un collègue, on parlait de ces règles-là, et je lui disais, mais moi, en fait, sans le savoir, je les ai appliquées. Et c'est sans ça, parce que je les connaissais vraiment pas, je n'avais pas lu les bouquins qui m'enseignaient là-dessus. Je n'étais pas fait la réflexion. Or, je ne sais pas si vous avez lu Les Lames du Cardinal, mais au tout début des Lames du Cardinal, le cardinal de Richelieu convoque la femme, un vieux soldat qui a longtemps été sous ses ordres, et il lui dit, voilà, je voudrais que vous repreniez, j'ai une mission pour vous, il faut reprendre le collier. Et le premier truc que lui dit la femme, c'est non. Alors, le refus du destin, il dure 4 lignes, 15 minutes, parce que c'est Richelieu en face, quoi. Donc, là, Richelieu, il dit, non, mais en gros, rien qui te parle.
Je pense qu'il y a des dragons.
Voilà, c'est ça. Mais il n'empêche que ma première réaction, ça a été de faire dire non au héros. Non, je ne veux pas reprendre du service pour vous, pour ceci, pour telle et telle raison. Ça crée un petit conflit, ça, voilà, c'est plus intéressant. Mais il n'empêche que, inconsciemment, j'avais repris les premières règles de la cinétologie. J'en ai fini.
J'ai regardé le
destin.
c'est plus éloigné de son destin. Je conçois ou je reçois le destin comme un appel. Quelque chose qui nous invite à une expérience et à laquelle, comme disait Pierre, on résiste ou on ne résiste pas. Si on résiste, quelque part, ça va créer un dégâts qui fait qu'on va souffrir, enfin, on va se sentir mal. Et donc, c'est plutôt essayer de reconnaître cet appel et d'aller dans cet appel sans résistance. Ce qui est marrant dans Cooper de Fantasy Bruxelles d'ailleurs, c'est qu'on tient le destin des personnages dans le moment de jeu. Et ça, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que c'est une relation pour moi, dans la vie, quand vous retournez, vous vous rendez compte que finalement vous avez assez peu de responsabilité dans ce qui vous arrive parce que vous ouvrez ou fermez des portes. Je vais prendre un exemple. J'ai mis 8 ans pour publier mon premier roman et pendant 8 ans, c'était fermé. J'ai voulu faire ce que je voulais, envoyer mes manuscrits partout, téléphoner, il y avait un auteur génial, je ne vous en ai pas compte. Donc j'avais pas d'affaire. Non, mais bon, je ne sais pas. Et c'était bloqué, j'ai bloqué quoi, pendant 8 ans, et j'ai fait d'autres boulots, et j'ai voulu faire d'autres expériences. Et d'un seul coup, ça s'est ouvert, et je ne sais pas, un concours de circonstances incroyable, avec un ami qui était ancien professeur de banjo, qui est devenu traducteur, que j'ai lu sur un livre, que j'ai appelé en disant tu crois que je veux, et tu m'as dit oui, bien sûr, en mettant la ligne, et puis ça s'était tout seul. Alors ça se déclenche, et ça, on ne pouvait pas mettre ça. Finalement, dans notre vie, de quoi est-on gagné dans notre vie ? Vraiment. Quelle est la responsabilité dans le fait qu'on soit homme, femme, on a des yeux bleus, on soit grand, on a des yeux noirs, on soit petit, etc. On a, c'est quoi notre choix maintenant ? Là, je pense qu'il faut une forme de destinée qui est intéressante. Je pense que ce qui est important, et les personnages, j'ai parlé naturellement, c'est de trouver. Déposer son destin, c'est ça qui devient intéressant. Parce qu'il y a un rôle à accomplir, et ce rôle, on va le découvrir. Les personnages de Arkham, par exemple, sont des personnages qui découvrent leur destin peu à peu. Ils étaient passés par des endroits très difficiles, mais qui leur permet aussi de grandir et d'évoluer. Donc, moi, je suis très pro destin.
J'aimerais s'en faire passer un rôle de philo. Il n'y a que Pierre qui va passer le
Alors, on en voit beaucoup là, non ?
C'est bien.
J'y vais. Alors, le destin. Alors, déjà, comment on voit le destin ? Est-ce qu'on voit le destin de manière très linéaire ? Est-ce qu'on cède à la fatalité et on se dit le destin est déjà tout tracé ? D'un point A, on va arriver à un point B, mais on n'en déroge pas. Ou est-ce qu'on voit le destin autrement ? Et c'est-à-dire, par exemple, un grand arbre, on commence par la base du tronc. Et on monte, et en fonction des ramifications, on choisit. Est-ce que le destin, finalement, ce ne serait pas une vie qu'on choisit au hasard ? Et voilà, pour le roman, j'ai choisi direct de fermer toutes les portes, parce qu'on arrive, dès les premières pages, on sait que la ville est assiégée, et le destin du personnage, direct, il est fermé, et on va dans cette direction, et on n'en déroge pas. Voilà.
Il y a une particularité quand même, dans ces déjà, le roman Grégory La Rosa, que je vous conseille fortement, c'est qu'il a raconté à la première personne. C'est donc on a le point de vue du personnage finalement. Et qu'en plus on va se rendre compte que c'est un personnage qui, contrairement à ce que nous ont dit les deux pierres, a toujours eu la sensation d'avoir son destin en main, d'avoir construit véritablement sa vie, jusqu'à ce jour où on vient le réveiller parce que l'ennemi est aux portes de la ville.
Alors, le Sénéchal, c'est assez. Parce que quand j'ai vu le thème de la table ronde, je me suis dit quand les héros de fantasy rencontrent leur destin, alors déjà le Sénéchal n'est pas un héros. Et il est passé à côté de son destin. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter dessus parce qu'en fait, oui, dans son échelle, il y a un peu le destin voulu qui se voulait, qu'il n'a pas eu, et le destin réel, celui qu'on lui impose direct. Voilà, l'éternel second du roi qui ne sera jamais anobli, qui doit défendre sa ville coûte que coûte, mais qui est toujours dans l'ombre.
Qui est méprisé par les autres.
Qui est méprisé par les autres. Enfin, alors après, voilà, c'est la première personne, lui, il a l'impression d'être méprisé par les autres. Mais est-ce que c'est complètement vrai ? Ou est-ce que c'est pas quelque chose qui se ressasse continuellement et qui, au final, lui ferme des portes ? Enfin, il se ferme des portes tout seul, quoi. Et voilà, il y a cette perception-là, on ne sait pas trop.
C'est intéressant, tout ça. le destin, c'est quand même quelque chose qui est très présent dans la plupart de vos romans, avec effectivement souvent des personnages qu'on rencontre à un moment où on a bien compris
qui leur est tombé sur le coin de la figure, ce fameux destin, qui leur a arrivé quand même un certain nombre de misères, je pense à Wittstadt, même au Royaume, d'une certaine manière. Monsieur Fétienne, bonjour. Jean-Luc Fétienne. finalement, souvent, le destin a déjà été en partie accompli, et ça s'est rarement bien passé pour vos personnages.
Dans le Royaume, oui, en tout cas, de ton fils, bon, là, pour le coup, moi, je suis particulièrement bien, on va pas dire, parce que dans, au Royaume, le destin, c'est presque le sujet principal du roman. C'est, il y a une force qui est le destin, qui dirige l'univers. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée, et c'est celle que j'applique dans le Royaume, c'est que, tout ce qui est arrivé devait arriver à un moment où les grands événements historiques, en particulier, bon, pas pour les petites destinées particulières, de gens du commun, dans mon genre, mais pour les grands événements, les grands personnages historiques qui vont jouer un rôle, tout ça, j'ai imaginé que c'était dirigé par le destin. Pour dire les choses clairement, il y a nécessairement, au milieu du XXe siècle, il allait y avoir une guerre mondiale, nécessairement. Alors, si il se trouvait que Hitler avait eu un accident de voiture, il y aurait eu un autre saut d'Hitler qui peut-être aurait fait que la guerre aurait commencé 3 ans plus tard ou pas. Mais le destin est tel, dans le royaume, que vraiment, ce qui doit arriver fatalement, ça peut être retardé, ça peut prendre des chemins de traverse, le destin déteste ça. L'analogie que prennent plusieurs fois les personnages, c'est celui-là d'un fleuve. Imaginez le destin comme un grand fleuve qui descend. On ne peut pas le retenir, éventuellement on peut à peu près le détourner. Le fleuve, s'il peut aller au plus simple, il va au plus simple. C'est-à-dire qu'en gros, s'il a décidé que mon bon héros ou un autre personnage, mettons l'ordre, doit accomplir quelque chose, tout va être fait pour que l'ordre accomplisse quelque chose. Mais si l'ordre ne veut pas accomplir quelque chose, dans ce cas-là, c'est probablement quelqu'un d'autre qui va le faire. Et celui qui n'a pas voulu faire ce qu'on attendait de lui, il va avoir des soucis. Parce que du coup, le destin va dire, il ne sert à rien, c'est une anomalie, ça ne s'applique pas, il ne rentre pas dans le logiciel. Donc, la notion de destinée est vraiment, vraiment très très importante. Elle est même, comme je disais tout à l'heure, en fantaisie, on peut incarner des notions floues. Chez moi, elle est incarnée, c'est le dragon gris, le dragon du destin. C'est lui à qui tout le monde pense, et c'est de lui dont on pense appliquer les décisions en se trompant ou pas, ce qui complique un peu. Mais oui, en effet, le destin dans vos royaumes, la série principale, en tout cas, est vraiment importante. Pour ce qui est de cette cité ou d'autres séries, en l'occurrence, le destin pour les héros de au royaume de cette cité, car pour l'histoire du monde de voleurs, eux, ils ne sont pas destinés à faire des grandes choses, justement. C'est ce qui m'intéresse. Dans le même univers, on a à la fois des gars qui décident des guerres, des grands complots, des alliances, qui écrivent l'histoire, dessinent les frontières des pays, etc. Avoir aussi les aventures d'une bande de gars qui, eux, ne laissent pas leur nom dans les livres d'histoire, ils n'ont rien changé au cours de l'histoire du monde. Eux, le destin, ils se manifestent dans la mesure où ils sont dans des situations infernales, ils sont des pauvres, dans une ville dangereuse, et n'ayant aucun moyen de s'en sortir. Et comment font-ils pour y survivre? Ils n'affrontent pas leur destin, mais ils sont confrontés à des conditions qui relèvent du destin et qui font qu'ils ne sont pas à la fête.
Et on s'en rend vraiment compte à la fin du 3 octobre.
Oui, ils ne sont pas ménagés. Je lisais toujours trop James Ellroy quand j'ai lu. C'est jamais bon pour les personnages de la chaise.
Jean-Luc Fétienne, je vais vous donner la parole, puisque vous venez de nous rejoindre. Alors, en introduction, je disais qu'on allait découvrir des univers assez différents avec vous. On va partir dans un univers de fantaisie historique, puisqu'on va partir au temps des croisades, dans une région qui était déjà mouvementée à l'époque, qui est encore toujours aujourd'hui, puisque vous nous emmenez en Syrie, dans l'actuelle Syrie. Ça démarre par une naissance, Jean. Est-ce que c'est déjà un signe du destin, cette naissance?
Oui, forcément. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'imaginaire arthurien, sur les mondes celtiques, etc. J'ai envie de changer et de m'intéresser à un univers oriental. Et moi, je suis souvent, comme Pierre d'ailleurs, intéressé et inscrit dans des univers historiques qui correspondent à une vraie réalité. Moi, j'aime pas trop quand la fantaisie qui part dans les mondes des dystopiens, des dictatures. J'aime bien quand la fantaisie corresponde à un récit historique, à un temps historique très précis. Là, on est dans un roman, c'est un roman d'histoire qui se situe entre la première et la deuxième croisade. faits qui sont exposés sont des faits réels. Tous les personnages qui sont, quasiment tous les personnages sont des personnages réels. Et il y a une fantaisie qui est la fantaisie orientale, en l'occurrence la fantaisie du Coran. Et donc, comme le Coran est un texte auquel croient encore énormément de gens aujourd'hui, ce n'est donc pas de la fantaisie, puisque si vous êtes musulman et que vous croyez au Coran, les djinns sont une réalité. Et là, on retrouve quelque chose qui est une composante importante de la fantaisie et ce qu'on fait sur tous ces livres, c'est qu'il faut bien voir que ce qui est une légende à nos yeux, ce qui est de la fantaisie à nos yeux, a été une réalité à un moment donné. Même chose pour les chrétiens. Les chrétiens du Moyen-Âge ne croient pas aux anges comme on peut y croire maintenant, ils y croient dur comme fer, ils croient au miracle dur comme fer, c'est une réalité absolue. Les musulmans de l'époque et certains musulmans aujourd'hui croient au djinn comme une réalité absolue. Le djinn, c'est le nom qui donne le génie. Ce sont des créatures bien réelles, créées par Allah et qui influent sur le destin des hommes. D'une façon souvent négative, mais pas toujours, un peu comme sont les lutins en Bretagne. Ils sont le plus souvent négatifs, mais pas forcément toujours.
Mais il ne faut pas qu'on a parfois tendance un peu à assimiler le djinn à un démon, et on se trompe en fait.
Non, oui, c'est une créature, parce qu'il y a, dans l'univers, il y a des hommes, les démons et les djinns, et c'est quelque chose un peu à part, même si Shaitan, Satan, est un djinn, c'est quelque chose un peu à part. Et donc les personnages, puisqu'on parle de destin, les personnages historiques de l'époque sont influencés par cette djinn, par cette terre, par cette région, une région qui a toujours été agitée, la région de la Syrie. C'est une région, à l'époque, où on parlait grec autant qu'on y parlait arabe. Donc ce n'est pas une terre arabe au départ. Et il faut voir qu'au temps des croisades, on a une vision assez faussée des croisades. Au temps des croisades, qu'on appelle des Francs, donc des Français pour résumer, les Occidentaux sont aussi bien Français que Italiens, que Allemands, enfin, beaucoup Français. Quand ils arrivent là, il y a une autre croisade qui se passe en même temps, c'est la croisade des Turcs. Les Turcs qui viennent d'Asie mineure descendent et envahissent toute la région. Et il y a une guerre entre sunnites et chiites, déjà, qui est à leurs yeux beaucoup plus importante que la petite invasion franco-chrétienne qui passe à l'époque relativement inaperçue. C'est en tout cas une composante d'un enjeu beaucoup plus important. Et la ressemblance avec ce qui se passe aujourd'hui est assez frappante. Les récits historiques se passent entre Mossoul, Alep, Damas, Istanbul, avec une secte d'hommes habillés en noir qui ont choisi l'action terroriste comme moyen d'action, cette qui la secte qui a bien existé, la secte des assassins, qui était installée dans les montagnes de Syrie et qui venait d'Iran. Donc tout ça ressemble énormément à la situation de la Syrie actuelle. Et on se rend compte que finalement les enjeux d'aujourd'hui étaient déjà présents dans l'an 1000 et dès en Syrie. Et que finalement les choses ne changent pas. Donc là, c'est pas du destin, c'est plutôt le poids de l'histoire en fait.
J'abordage Arkham. Alors, hier, j'ai dit un retour à la fantasy, je me suis fait taper sur les doigts, mais je vais pas recommencer. Pour une entrée en fantasy, Arkham aussi est un roman qui repose sur le destin, en particulier les trois personnages qui vont mener les trois films narratifs principaux. Il y a il y a Ren, et il y a Noé. On va plutôt s'intéresser aux deux premiers. Là, on va peut-être le laisser un peu de côté parce que pour le moment, effectivement, c'est peut-être celui dont le rôle et le destin est peut-être un peu le moins clair en attendant la suite des événements. Mais on a ces deux premiers personnages, cette demoiselle issue de la haute société d'Arkham et ce jeune garçon qui est un apprenti enchanteur. Tous les deux, quand on les rencontre, leur destin bascule.
Oui.
Merci. Grégory Darosa, je vous écoute. Chaque fois que je pose des questions.
Moi je plaisante tout ça.
Non mais vas-y.
Oui, bien sûr, parce que c'est ce qui lance l'histoire. C'est-à-dire que je pense que toute histoire de fantasy ou de science-fiction commence par une rupture. Donc c'est-à-dire c'est aussi la partie de la société, c'est franchir ça sans un guide, en portant des torches. Et donc, cette jeune fille vivant dans le bureau, je suis dans le cas, sa famille est assassinée. Et cette famille, d'ailleurs, est totalement assassinée. Il y a un complot fomenté par les autres maisons. Et le personnage va survivre par contre de circonstances, destinées, probablement, et qui décide de rejoindre son frère, qui est lui, mon frère, qui a été banni depuis, ça fait partie de mon d'ailleurs, qui a été banni depuis des années, dans un bagne qui situe dans les profondeurs de la ville, quand on ne sait pas très bien ce qui se passe. Il va essayer de rejoindre ce frère pour essayer de monter une armée avec lui pour conquérir la place de sa famille. Et elle va descendre les 7 niveaux les uns après les autres. Et pour éviter de se faire repérer, elle va s'injecter une maladie déformante dont elle a de l'antidote, mais dont elle n'a pas l'antidote. Après, c'est une très très jeune femme, et donc elle va profaner volontairement vraiment sa volonté, enfin, volontairement avec beaucoup de difficultés, pour essayer de mener à bien sa mission, pour son frère. Donc on va suivre toute sa descente. Presque une descente aux enfers, donc dans les fonds d'arcane. Ça, c'est le premier roman de la Bible. Le deuxième, c'est Rennes. Rennes est un enchanteur de pierre, c'est-à-dire que c'est une sorte de tailleur de pierre de façon plus spirituelle quasiment, c'est-à-dire que lui doit entrer dans la pierre pour essayer de dégager, de se retrouver dans un niveau moléculaire et de penser modifier les molécules de la pierre qui apparaissent comme des étoiles. La pierre qui change de forme. Il apprend qu'il ne maîtrise pas encore très bien son œuvre au début. Et lui, il est dans une montagne de bastions qui sont très très loin d'Arcane, à l'autre bout du fleuve, l'autre extrémité du fleuve Onivir, qui est comme le Nil, qui est des crues pour fertiliser les dérives et nourrir toute cette population. Et un jour, un guerrier va débarquer dans mon atelier de travail, son maître a disparu, c'est le premier avait passé. Et ce guerrier s'appelle Henri, qui lui dit je viens d'un royaume voisin qui a été entièrement détruit par une armée qui ne conquérera jamais les Nord. Donc il va falloir prévenir les dirigeants d'Arcane que cette armée s'en allait déferler et détruire le pays pour se préparer à la résistance. Et ils vont entreprendre le voyage le long du fleuve Vivir jusqu'à Arcane pour prévenir les familles régions d'Arcane.
Avec Rennes qui ne comprend pas pourquoi on s'adresse à lui.
Et moi, il ne comprend rien. C'est le niais de toute cette profondeur. Le mien tel que défini par Joseph Campbell dans le gros du visage, c'est-à-dire le personnage totalement innocent, qui ne comprend rien de chose, mais qui est suffisamment innocent justement pour accepter, de changer. Et il va découvrir peu à peu les contenus de son rôle, parce qu'il s'aperçoit que le rôle en veut beaucoup. Lui, il est un fils de paysan des rives, les rives de Dombivir, donc on l'a envoyé comme apprenti enchanteur de pierre, parce que sa grand-mère prétendait que les pierres changeaient de forme à son bas âge. Je ne sais pas si c'est vrai. Non, on s'est débarrassé du parce qu'il était paresseux par ailleurs, il avait compétence d'affaires les deux après-mont. Il n'est pas très probablement bien chanteur de pierre, enfin bon, c'est un père nasse quoi. Mais
c'est sympa avec un personnage de terre.
Oui, mais j'aime beaucoup ça quand il y a un personnage comme ça qui se découvre peu à peu avec son pouvoir et son rôle très important pour éviter la destruction totale d'Arcane. Voilà, on va suivre ces deux personnages dans une trajectoire verticale et une trajectoire horizontale. Il y a un peu de jonction entre les deux.
Elle est dans le Sénéchal, c'est donc, on va dire quasiment, c'est le premier ministre, on va dire, un peu, du royaume.
Oui, hein, oui, c'est l'équivalent, c'est celui qui gouverne. C'est le deuxième homme du royaume, ouais.
Lorsque démarre l'histoire, on le réveille donc en pleine nuit pour lui dire que la ville est assiégée. Et là, petit à petit, sa réaction, elle peut pas un peu surprendre, on va dire. On a presque le sentiment qu'il s'y attendait.
Alors, ouais, parce qu'on lui dit que... Alors, c'est Jacques Roudenteux qui arrive dans sa chambre et qui toque et qui lui dit « Sénéchal, la ville est assiégée. » Et le roi vous monte dans l'instant en la salle du trône parce qu'il faut préparer les défenses. Et du coup, le Sénéchal lui dit « Mais non, on a le temps, hein, c'est un siège, ça va durer un petit peu de temps, donc j'arrive. » Alors il prend le temps de s'habiller correctement, de se pomponner, parce qu'il sait que dans la salle du trône, il va arriver, il y aura tous les aristocrates qui seront terrifiés, et lui, il va arriver comme le messie qu'on attend, un peu. C'est-à-dire qu'on attend ses conseils, et il arrive dans la salle du trône, comme ça, mes conseils arrivent. Et bon, après, il va se heurter à beaucoup de... un adversaire politique assez...
c'est ça. En fait, il y a le sorcelier autour de l'IGS qui va lui tirer dans les pattes constamment et va s'instaurer une espèce de guéguerre politique entre les deux qui les fera vraiment patauger dans la smoule complètement. Hein. Et voilà.
Dans la particularité de Renan, j'ai évoqué la narration de la première personne, ce qui n'est pas forcément si courant. Il y a aussi l'impression qu'on est en temps réel, quasiment, qu'on n'est pas sur des durées très longues comme on peut avoir dans les autres romans qui sont autour de cette table. Là, on est sur 3 jours, c'est ça
Ouais, on est sur 3 jours et j'ai voulu égrener au fur et à mesure des heures. Alors, les heures canoniales, du coup, c'est un clin d'œil un peu à un roman qui m'avait vraiment. Lâché, c'était Le nom de la rose de Umberto Eco, et où du coup on est dans ce huis clos dans une abbaye, et du coup il y a un peu aussi de très loin, voilà, parce que j'aurais pas la prétention de gagner Umberto Eco, mais il y a aussi ce huis clos dans la ville du Sénéchal, et du coup on égrène au fur et à mesure l'intrigue en fonction des heures, ce qui donne j'ai essayé de mettre l'accent sur une atmosphère vraiment oppressante. On est vraiment dans la ville, on est aussi à la première personne, dans la tête du personnage, et on est aussi, du coup, dans un temps très resserré, ce qui fait qu'on a cet accent sur l'atmosphère.
C'est une des grandes qualités du roman, c'est vraiment qu'on se sent, il y a une vraie sensation de claustrophobie dans cette histoire, parce que voilà, on n'a pas moyen de sortir, on n'a pas moyen de s'évader de là, on est coincé, on est obligé vraiment.
C'est un peu ça, et même les scènes que j'essaye de faire, même si on est dans une capitale, on est dans une ville, à chaque fois, chaque heure canoniale, on se retrouve dans un endroit qui, au final, est aussi un huis clos à sa façon. Il y a une scène à un moment qui se passe dans un grand édifice religieux où tous les personnages sont enfermés, c'est une scène d'action. J'ai eu des retours comme quoi cette scène-là, elle était, je vais pas en dire trop, mais cette scène-là, elle était étouffante, quoi. Elle est très longue et on a envie d'en sortir et en même temps on a envie de savoir ce qui se passe. Et voilà.
Pour revenir au destin, alors encore une fois, là aussi, l'originalité, on a vraiment, je redis, l'impression que le Sénéchal, il a la sensation d'avoir son destin en main. Or, tout ce qui va se passer petit à petit remet en cause tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a élaboré.
Ouais, notamment sur la magie en fait. Il est complètement ignare sur ça parce que c'est vraiment un homme politique plus qu'un homme de guerre. Donc en fait, il dirige le royaume depuis son grand donjon. Il a des idées toutes préconçues, toutes faites sur le monde et sur. Alors lui, il pense vraiment que la magie, ça existe certes, mais les légendes ont enrobé tout ça et ont vraiment exagéré la chose. Et quand il va se heurter justement à tout un tas d'attentats en plein dans la ville, il va se rendre compte que la magie est beaucoup plus forte que ce qu'il pensait. Et ouais, il va se heurter à la réalité de la chose et il va se rendre compte qu'il n'a pas forcément les choses en main, clairement. Quoi.
On va parler un peu de l'accomplissement maintenant du destin. Pierre Pével, cet accomplissement, évidemment, c'est le cours des choses, mais on a aussi l'impression chez vous, alors, est-ce que c'est votre côté amateur de Dumas qui parle? Il y a toujours un petit côté Monte Cristo chez vos personnages.
Oui, c'est possible. Dans le haut royaume, en fait, l'accomplissement du destin pour le héros est presque au contraire. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, normalement, il y a une première étape qui est le refus du destin et ensuite le héros fait un peu ce qu'il est censé faire. Dans le haut royaume, il y a le refus du destin et ensuite il y a le refus du destin. C'est-à-dire que le gars, il était dessus, il est décidé à pas.
Ça lui a quand même coûté quelques années de prison.
Ça lui coûte cher et surtout. C'est une dimension tragique que j'aime bien, c'est que ça commence à coûter cher aux gens qui sont autour de lui. C'est surtout ça que je veux dire. C'est, parce que là, on a une vraie dimension tragique. C'est encore plus.
Tu veux mettre un peu sur la cruauté
Non, mais c'est plus émouvant d'avoir encore un héros qui refuse son destin et à qui il arrive des malheurs. On peut dire qu'il a décidé de faire ce qu'il voulait. Par contre, quand les obus commencent à tomber autour et ça fait sauter les gens qui sont là, ça se passe. C'est plus. Enfin, je pense qu'il y a une dimension tragique à ajouter. Et ça, en plus, c'est un thème que j'aime bien. Donc, pour mon royaume, le héros refuse son destin. Ça lui coûte cher. Évidemment, ça crée des événements totalement inédits, même pour le destin, ce qui est assez perturbant pour tout le monde. Et à côté de ça, il y a plein de gens qui essayent de lui faire faire ce qu'il est censé faire. Encore une fois, comme les notions de destinée sont incarnées facilement, enfin peuvent l'être facilement incarnées, dans l'univers de fantasy. sont incarnés, sont nommés, correspondent à des événements ou des personnages qui existent véritablement. Donc, il y a par exemple l'étoile du chevalier noir qui on n'est pas pressé de voir arriver, il y a l'étoile du chevalier du prince noir, pardon, on n'est pas pressé de voir arriver, il y a l'étoile du chevalier à l'épée. Or, comme la destinée de l'homme fait qu'il fait, il joue un peu sur les deux tableaux, ces deux étoiles finissent par se réunir. Et j'aime bien aussi incarner, parce que dire, les astrologues, là, les deux étoiles sont tellement proches que leur lumière se confond, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Qui est l'un, qui est l'autre. Ça, c'est des événements qui sont provoqués par l'homme.
Et sur le côté remonté Christos, d'avoir le sens, on revanche un peu sur le destin aussi.
Ah ben oui, nettement, le gars, il était accusé de trahison, jeté dans une prison où il aurait dû mourir après être devenu fou. Quand on l'en sort pour lui dire « Oups, on s'est peut-être trompé, vous étiez sans doute innocent, mais serons-nous, vous seriez assez gentil de sauver le monde parce que c'est vous qui êtes censé le faire. » Le gars, en principe, dans la fantaisie, en fait, je pense honnêtement, je ne veux pas jeter la pierre à mes illustres prédécesseurs, mais il y a 25 ans, le mec, il aurait dit « Oui, on y va. » Mais là, maintenant, il s'est passé des tas de choses, donc le genre a un peu évolué, donc le héros, il dit donnez-moi les moyens d'accomplir ce que vous voulez que je fasse, sauf que moi, je ne sais rien, je veux manger, sauver.
Moi, je trouve que c'est un truc vachement intéressant. C'est vrai que ce que tu viens de dire, c'est vrai que le principe du héros qui accepte d'être un héros et qui va au baston, c'est un truc complètement absurde. Si vous êtes face à une situation de danger, si quelqu'un vous attaque, le réflexe, pour moi, c'est la règle de base du roman policier, mais ça s'applique à la fantaisie. Si vous êtes attaqué par un méchant, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à la police. Au final. Donc si le mec va pas à la police, il faut une raison. Et un héros de fantaisie, le type, il est sur des châles, il est paysan, il est ce que vous voulez. Son réflexe premier, c'est de dire non, je ne veux pas aller combattre des méchants, des dragons, le faire tuer, le faire couper le monde. Non. Donc s'il y va, s'il accomplit son destin, il faut une raison, il faut une raison puissante. Et je trouve que si on ne règle pas cette question-là, le roman est bancal, forcément. Et ça donne effectivement un type de fantasy qui a existé, du type Conan, etc., avec des espèces de héros qui sont juste profession héros. Quoi. Les gars, ils vont tout de suite chercher quelqu'un à tuer et à couper en rondelle. Et ça n'a pas de sens.
C'est le syndrome de Bruce Willis.
Voilà, le syndrome de Bruce Willis. Le mec, il...
Non, Bruce Willis, enfin, je parle de J.J. Cristal, au tout début, il passe son temps à râler d'être obligé de faire ce qu'il veut faire. Et en fait, c'est l'affaire.
C'est sans faire. Même en gros, il râle, en fait. C'est une composante. Mais c'est vrai que c'est une composante importante de l'anti-héros, le gars qui cherche à résister à son destin, qui cherche à se barrer, à mener une vie normale et à regarder la télé le soir. C'est un peu le truc. Mais ça, je trouve ça intéressant.
En plus, il y a un élément qui échappe un peu au cœur de la table ronde, mais c'est l'intérêt du récit aussi. C'est-à-dire que si on commence par un gars qui dit tu vas faire ça, le mec dit d'accord, c'est un petit peu moins intéressant que le gars qui dit tu vas faire ça, mais non. Non, ou alors il dit pourquoi. Tout d'un coup, on est obligé d'expliquer les choses, de trouver des bonnes raisons, et ça crée des événements, et ça crée de la tension, et ça crée des personnages, et ça crée des conflits, et donc ça crée de l'histoire. Plus les choses se fassent facilement, moins elles sont intéressantes. Or, un héros qui accepte tout de suite son destin, il fait que les choses se passent très facilement.
Il faudrait
accepter,
puis il
ne peut
pas le faire.
Voilà, c'est ça. Il faut toujours qu'il y ait un obstacle à un moment ou à un autre. Ouais, c'est évident. C'est d'ailleurs une thématique oui, très intéressante. Les gars qui ont dit voilà, il faut que tu fasses ça. Il dit ouais, d'accord, j'y vais. Maintenant, je fais comment? Bah, on ne sait pas.
Débrouille-toi.
Après tout, c'est toi le héros. Quoi. Donc, voilà.
J'en ai fait une particularité par rapport aux autres auteurs qui sont présents. Vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, c'est que vous avez un cadre historique. Avec des personnages qui sont des personnages ayant vraiment existé, ça veut dire que vous, déjà d'emblée, vous connaissez leur destin. Il a déjà été accompli.
Oui, oui, mais leur destin, mais c'est intéressant, ça rebondit sur ce que vient de dire Pierre.
Il y a dans l'histoire, la vraie histoire, effectivement, je sais où je vais, mais il y a sans arrêt dans l'histoire des aberrations, qui est d'ailleurs un terrain de jeu pour les amateurs du chronique d'histoire parallèle. Mais à un moment donné, des gens font des choses complètement aberrantes. Par exemple, je vous parlais de Deuxième Croisade. Et ce que je vais vous dire là est historique. La Deuxième Croisade, donc vous avez Louis XVI et Aliénor d'Aquitaine qui partent de France avec une forte armée. Vous avez l'empereur Conrad d'Allemagne qui part avec une énorme armée. Conrad y perd à peu près toute son armée en route dans des batailles contre les Turcs.
d'Antioche, Aliénor d'Aquitaine, qui était quand même une fille assez chaude de tempérament, rencontre son oncle, qui est le prince d'Antioche. Elles ont. Les historiens ne disent pas franchement, mais apparemment, son comportement n'est pas tout à fait celui d'une nièce avec son oncle. Ça énerve le roi, on comprend, qui quitte Antioche de nuit avec sa fameuse Aliénor d'Aquitaine sous le bras. Et qui file à Jérusalem. Tout ça est historique. Et à partir du moment où il arrive à Jérusalem, comme un peu énervé, chaque fois qu'un baron du coin, c'est-à-dire les gens qui avaient fait la première croisade, les gens qui connaissaient les enjeux politiques, militaires de la région, lui, chaque fois que ces gens-là lui donnent un avis, il va faire le contraire. Une sorte de Trump de l'époque. Et en fait, donc, la situation de la Syrie à l'époque, c'est que vous avez, comme je disais tout à l'heure, une invasion des Turcs sunnites, une invasion menée par un gars qui s'appelle Nur al-Din, une invasion des Égyptiens chiites menée par Saladin, et au milieu, des Émirats indépendants, dont Damas, et les Francs qui sont installés sur une bande qui correspond à la Syrie, Israël, etc. Une bande de terrain le long de la mer. Leur seul allié dans la région, c'est Damas. Et qu'est-ce que font les Francs de la deuxième croisade? Ils attaquent Damas. Leur seul allié. Donc qu'est-ce que fait Damas? Il se tourne vers les Turcs pour dire « Venez m'aider, je suis attaqué par les Francs ». C'est complètement aberrant. En plus, ils attaquent Damas à la saison des pluies, donc ils ne peuvent pas installer leur machine de guerre, qui était le seul élément fort, parce que quand vous attaquez une ville fortifiée avec une épée, il faut taper longtemps. Hein. Donc si vous ne pouvez pas installer des défroids, etc., ça ne marche pas. Donc au bout de deux jours, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Et ils rembarquent. Aliénor d'Aquitaine dans un bateau et le roi dans l'autre, sauf qu'elle ne rentre pas chez elle, elle va directement en Provence, de là, elle va en Angleterre, guerre de 100 ans. Donc c'est quand même un comportement. Alors on est dans un comportement qui est historique, mais qui est complètement dingue. C'est franchement, si vous essayez d'expliquer ça d'une façon rationnelle, le parcours d'Aliénor d'Aquitaine, c'est un parcours sidérant. Elle provoque la faillite de la deuxième croisade et elle provoque la guerre de 100 ans. C'est quand même balèze pour une seule personne.
Comme porte-poids,
elle est quand même un peu balèze. Alors elle devrait être super mignonne, tout ce qu'on veut, mais enfin c'est quand même waouh. Et donc là, je trouve que c'est un terrain intéressant de s'inscrire. Je trouve que l'histoire, avec un grand H, alors pour le coup, est suffisamment incroyable pour ne pas avoir besoin d'y toucher. Et juste expliquer ces aberrations, et j'en passe, le comportement de Renaud de Châtillon, qu'on voit dans le film sur je sais pas comment ça s'appelle, Kingdom of Heaven, où c'est un personnage complètement dingue. Il va ravager la Crète, qui était un pays allié, il tue des prêtres, enfin, c'est un mec complètement fou. Il y a des gens qui perdent l'esprit totalement en Terre Sainte et qui se comportent d'une façon invraisemblable. Et donc, mon propos, c'est de dire s'ils perdent l'esprit, s'ils se comportent de façon invraisemblable, c'est qu'ils sont ensorcelés par des djinns. Et ce qui est le fondement dans la religion musulmane, les djinns sont des gens qui font perdre l'esprit. Donc on est là aussi dans une fantaisie qui n'est pas complètement inventée, mais qui peut avoir, entre guillemets, sa part de vérité. C'est ça qui m'intéresse.
J'aborderai sur l'accomplissement du destin. Ça va en faire, j'imagine, dans la deuxième partie d'Arcane. Il faut d'abord que vos personnages comprennent ce qu'on attend d'eux, d'une certaine manière. Pour le personnage de Zion, c'est à peu près clair, hein, pour aller chercher son frère, dont on se dit finalement que c'est peut-être lui, c'est peut-être son destin à lui, qui est peut-être le plus important, en tout cas un peu, au point où on en est se poser la question.
Ah, on peut se poser la question,
oui. Et puis Ren, lui, hein, pour le coup, il est le premier, comme on le disait tout à l'heure, à se demander
son rôle dans l'histoire.
Ah, ouais, ce qu'on lui demande.
Oui, bien sûr, c'est la découverte de son rôle. Même aussi, c'est un rôle, il veut découvrir son rôle. Oui, c'est le cheminement vers eux-mêmes, vers leur propre destinée. C'est bien ce que vous dites.
C'est une dimension spirituelle aussi, au sens peut-être un peu plus large du terme.
Oui, probablement. Je pense que la fantaisie, moi, c'est très déjà en tant qu'auteur de science-fiction. J'ai d'ailleurs fait un analyse historique aussi avec Jean Midard, le frère, c'est un russe en français, donc c'est beaucoup de choses à dire. C'est très riche. Dans la fantaisie, pense que dans l'esprit, la matière, traversée dans l'esprit par la matière, ce que j'avais ressenti, je vois. Dans la partie, on parle du principe de l'esprit, donc de la matière, de la magie, c'est de l'extrême. Là, j'en prends bien pour moi, c'est la possibilité de modifier un peu les molécules, les structures de la matière profonde pour changer les choses. Donc, c'est un cheminement spirituel absolument, c'est-à-dire que l'univers garde son propre.
C'est très frappant avec Rennes, parce que Rennes, déjà d'emblée, il se demande, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, il ne sait absolument pas pourquoi on l'a envoyé chez cet enchanteur. Il n'a absolument pas su qu'il y a voilà, c'est ça, il n'a pas du tout la vocation. Or, petit à petit, il fait quand même l'effort de se dire bon, est-ce que quand même, on aurait pas eu des raisons de l'envoyer là il commence quand même à fouiller au fond lui-même.
Il s'aperçoit que, manifestement, il n'est pas un guerrier, parce qu'il a des théories qui vont complètement très efficace. Il faut lui mettre une épée dans les mains et il demande comment faire. Il se demande
qu'elle vous l'apprend.
Comment faire en enfoncer dans les jambes, et ça me paraît bizarre. Puis, sauf à un moment où il va répondre directement à chauffer quelqu'un dans la cuisine et sur une programme pour tomber sur une marche pour corriger ses souffrances et ne pas accepter le fait de tuer.
Aussi, au départ, son destin est tracé avant les événements. Il n'y a pas de surprise dans son existence.
Non, il n'y a aucune surprise dans son existence. Elle est une fille de famille qui va s'épouser à un type de famille, finalement, son tour de famille. Et tout ça va être bouleversé. Et elle va découvrir aussi son véritable être. Elle est obligée de maintenir sa beauté. C'est vraiment un terrible problème de s'accepter. Accepter ça, il a bien déménagé aussi vers la mais il y a une découverte aussi, puisqu'il y a un moment, sa famille c'est le drac, le drac s'appelle dans le monde rouge, qui vient par elle, qui l'a quitté de temps en temps avec la pirate. Donc il va aussi découvrir ce que c'est que le rapport entre le monde et le feu. Donc tout ça, c'est très bien aussi dans le monde de
l'eau. Ce qui est intéressant dans ces échelles, c'est la grande ambiguïté de notre personnage principal. On n'a pas trop raconté un peu ce qui se passe, mais il y a un événement au début du roman qui fait que d'un seul coup la cour s'agite parce que on se dit l'ennemi n'est pas seulement à nos portes, il est déjà à l'intérieur de la cité. Il y a un événement qui laisse présager la présence d'un traître. Et il y a toute une ambiguïté autour du sénéchal.
Alors, il y a toute une ambiguïté autour du sénéchal parce que
je ne demande pas de répondre est-il le traître ou pas. Enfin,
oui, non. Il tue tout le monde à la fin. Voilà. Non. En fait, parce que je pars du principe où j'ai pas un personnage qui se découvre au fur et à mesure du livre. On ne le découvre pas en tant que lui-même se découvre. Le sénéchal est assez âgé et se connaît par cœur. Et du coup, c'est nous qui allons le découvrir petit à petit. Alors, est-ce qu'il nous donne toutes les cartes en main dès le début? Bien sûr que non. On y va petit à petit en fonction de ce qui arrive devant lui. Et l'ambiguïté est voulue parce que, en fait, je voulais partir du principe qu'on peut soupçonner tous les personnages, même les personnages qui racontent. Et voilà, bah, d'ailleurs, le chancelier au tour de l'IGS ne se prive pas pour y aller. Il y a un moment, une espèce de scène où le sénéchal essaye de se disculper carrément et il raconte toute une histoire avec le comte du Cerné, donc je fais tout un jeu de mots avec le Cerné. Et autour de l'IGS, arrive à retourner tout ça. Enfin, c'est vraiment un jeu politique, ça me permet en fait un petit. De jouer avec les mots en fait. J'aime beaucoup jouer avec les mots. Donc du coup, voilà.
Mais ça donne quelque chose d'assez particulier parce que on parle beaucoup de ces personnages qui sont des héros, pas forcément. forcément toujours l'étoffe. Lui, c'est aussi un personnage très orgueilleux. C'est un personnage qui sait ce qu'il a accompli, qui sait que ça lui a coûté des sacrifices importants, et qui aujourd'hui a une espèce de complexe d'infériorité aussi, de ne pas forcément avoir été récompensé à la hauteur de ses sacrifices.
Ouais, alors en fait, il a fait beaucoup, il a réussi beaucoup, mais pour lui, c'est toujours pas assez. C'est vraiment l'éternel ascéticien, en fait, le sénéchal. Et parce que lui se croit le genre du bas peuple, quoi. Et alors qu'en fait, il est quand même sénéchal, c'est le deuxième homme du royaume. Mais il insiste toujours sur ce fait-là qu'il a pas de sang bleu. Et du coup, c'est. Il est vraiment. Ouais, il est ambigu, en fait. On ne sait pas exactement ce qu'il veut vraiment. Est-ce que même s'il accède, par exemple, à la noblesse, est-ce qu'il sera content quand même, ou est-ce qu'il faudra encore autre chose? Donc voilà, c'est le trait de caractère que j'ai voulu développer avec ces gens.
On arrive bientôt au terme de cette table ronde. On va faire un petit dernier tour, parce qu'on avait démarré un peu presque de philosophie autour de la question du destin. Je vais finir aussi là-dessus. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, plus tard, finalement la vraie incarnation du destin de mon personnage, puisque c'est quand même vous qui est fait avancer, qui l'a fait choisir.
Moi j'ai remarqué un truc depuis que j'ai écrit, depuis une quinzaine d'années, c'est que quand vous avez réglé les questions préalables dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi le gars est là et pourquoi il s'engage dans un truc, c'est suffisamment bien réglé, le roman il s'écrit tout seul. C'est-à-dire que la destinée, vous aviez prévu, quand vous faites un bouquin, vous faites évidemment un plan, hein, sinon, ou alors, c'est un problème. Mais,
bordel, je vais dire non.
Non, mais il y a quand même un vrai problème. Non, mais il y a quand même pas une idée de ce qu'on veut raconter dans le bouquin. Or, vous vous rendez compte que vous avez prévu que le mec aille de A à B, pour certains personnages, vous vous rendez compte que c'est pas possible, ou que pour aller à B, il va devoir passer par A' et il doit faire tout un machin, et finalement, à l'arrivée, c'est ça le roman. Et donc, quand vous faites un synopsis, on aura un coup là, mais j'ai fait un truc en béton, je sais exactement chapitre 1, chapitre 2. Vous vous rendez compte que dès que vous commencez à écrire, vous partez d'un truc qui n'a plus rien à voir avec votre plan. Parce que. C'est, au moins, ça permet d'y réfléchir. Mais c'est vrai que c'est. Donc, cet aspect de la destinée, non, je ne pense pas que l'auteur soit une espèce de maître absolu de la destinée de ses auteurs. Moi, j'ai toujours remarqué plutôt le contraire. C'est-à-dire que les auteurs, les personnages avaient leur vie et développaient leur propre destin pour arriver finalement à quelque chose. Et je considère que un roman réussi, c'est un roman très logique où à aucun moment on se dit, on a ça aussi dans un film. On regarde un film, d'un seul coup, les gens font des trucs invraisemblables. À ce moment, le film n'est pas bon. Il faut toujours que les personnages soient cohérents. Et sur ce que disait Pierre, sur la dimension spirituelle, évidemment, la fantaisie, on parle que de spirituel, dans un monde extrêmement matériel, extrêmement logique, où la science et la logique doivent l'emporter sur tout. Le spirituel, qu'il soit religieux ou qu'il soit du domaine du rêve ou de l'imaginaire, c'est justement, évidemment, le principe, comme disait très bien Pierre, c'est que l'imaginaire, que la partie rêvée va être plus forte que le matériel. Et donc, c'est ça le moteur même de la fantaisie. On n'a pas besoin d'aller très loin dans l'imaginaire, on n'a pas besoin de développer des mondes avec des monstres incroyables, etc. C'est juste être dans des mondes où la vie n'est pas, contrairement à ce que nous pouvons ressortir de notre vie, où la vie n'est pas écrite à l'avance. On a le sentiment d'être dans des sociétés où votre vie est écrite à l'avance et où il y aura peu d'imprévus. Dans des sociétés médiévales ou dans le monde imaginaire, on a l'impression que, ou en tout cas nos personnages sont des personnages qui échappent à un destin préécrit. Ça tombe bien qu'on est que trois bien, parce que je suis absolument pas d'accord. Donc, pour aller vite, est-ce qu'on est les maîtres des destins des peuples et nos personnages? Moi, oui. Les persos ne font strictement rien que je n'ai pas dessiné. Dans le respect de leur cohérence, je ne leur fais pas comprendre n'importe quoi. Mais si l'ordre il va à droite plutôt qu'à gauche, c'est parce que j'ai dessiné. Je fais des plans, des synopsis extrêmement détaillés et je me tiens jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est vraiment le carnet de route, le chemin de fer de l'écriture du livre. Et aussi, c'est pas seulement un travail préparatoire, c'est une étape de travail nécessaire et c'est même un objet en soi quoi, qui est nécessaire à la création et qui mérite presque son existence indépendamment du bouquin qui a écrit après. La construction de l'intrigue, de l'histoire, c'est le synopsis et donc c'est déjà une première étape d'existence pour le bouquin à ce moment-là. Je pense que par contre, tu parlais de cohérence, ça c'est nécessaire, absolument. C'est pour ça que je dis que les personnages ils font rien, que je n'ai pas décidé, mais c'est dans le respect de leur cohérence à eux. Et souvent, cette cohérence, elle est génératrice de solutions ou d'événements intéressants. C'est-à-dire que parfois, sur une intrigue, alors justement, je travaille sur un synopsis, je dis, mais je trouve pas, il y a un élément que je trouve pas, il y a deux événements qui s'enchaînent pas bien, ça ne colle pas, il y a un truc qui gêne, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Et dans 90% des cas, c'est parce que je ne me suis pas posé les bonnes questions concernant le personnage. Du genre, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il ferait ça? Et c'est parce que je n'ai pas la bonne réponse à ce pourquoi que l'enchaînement des événements n'est pas intéressant.
C'est pour ça que je suis effectivement toujours se demander pourquoi un personnage doit faire ça, et pourquoi il ne va pas à la police pour faire ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi il ne rentre pas chez lui. Si on ne règle pas ce type de questions, on ne peut pas écrire un bouquin qui soit cohérent.
Juste pour finir, c'est la notion de destin, c'est-à-dire que là, tout le personnage, j'ai l'impression, je pense qu'on a pas plus lu les bouquins des autres, je suis désolé, j'ai pas lu les vôtres, mais de ce que j'ai entendu, en fait, que ce soit des personnages qui acceptent leur destin ou qui lui avancent, etc., on parle quand même de personnages, c'est à eux que les trucs intéressants arrivent, quoi. Il y a forcément une notion de destinée à un moment. C'est-à-dire que le gars il soit d'accord pour aller sauver l'univers ou pas, c'est à lui qu'on demande de le faire. Alors ça peut être le hasard, ça peut être des circonstances étranges aussi. C'est quand même à lui que ça arrive. On ne s'intéresse pas au gars à qui il va a priori rien arriver au boulanger du coin, ou à un huissier, ou à un comptable, beau-père, etc. Le gars il est sénéchal, chevalier, prince, même ton personnage de nier, il a un métier extraordinaire. Visiblement, c'est tailleur de pierre pour la matière. J'imagine que ça n'a pas à tous les coins de rue, c'est pas exactement. Donc il y a toujours quelque chose, il y a quand même toujours un truc qui fait que même si la notion de destin, de destinée n'est pas forte dans un roman, on s'intéresse quand même au gars à qui, sur le coin de la gueule de qui ça se retombe, quoi. Et du coup, voilà, c'est ça la destinée.
Je pense pas parce que. Pas du tout comme lui. Pour Pierre, ça n'est pas intéressant du roman. Je n'aurais pas rencontré, mais j'ai encore pas mal. Parce que je travaille vraiment en moi tout à l'instant.
Il n'y a pas de bonne méthode. La bonne méthode, c'est celle qui correspond à chacun. C'est toujours moi, quand on nous fait fonctionner, je veux dire, quand moi je fais, ça ne veut pas dire que ça va être le bon plan.
J'ai travaillé sur Gilles en Amérique à Roussec, à Papyrus du Trois, et je me suis rendu compte que vraiment, il va fonctionner tout à fait bien, parce que lui disait, il est bon d'un peu de moi pour son bouquin, et il m'appelait en disant, tu as prévu quoi pour tes personnages? Je ne sais pas. Pourquoi je peux travailler comme ça? Je ne sais pas. Donc il y a des vraies angoisses, parce que j'ai l'impression que ce structurant, c'est quelqu'un qui se rassure, comme on disait tout à l'heure, qui se rassure en maintenant sa structure, de laquelle il se rapproche en permanence, alors que le structurant ne subit pas l'aventure avec ses personnages. Et les personnages, moi, je ne maîtrise pas. Je comprends qu'il y en a qui meurent, je n'ai pas prévu une merde de mort. Mais je respecte. Tu me débrouilles avec ça, parce qu'il y a une raison pour moi pour laquelle il est décédé, il a disparu. Les personnages qui sont très importants, très bien, pendant ce qu'on s'y met là, j'ai pas entendu. Je le laisse vivre, je considère un syndicat à part moi, on est libre de faire ce qu'on veut. Mais bon, je négocie avec eux, mais j'ai souvent raison.
Merci beaucoup à tous les quatre. On va laisser la parole à la table ronde suivante qui finalement sera peut-être un peu dans la continuité. Il sera question de fanatisme religieux, donc on retrouvera sans doute quelques thématiques proches. Merci à vous, merci à ces auteurs pour ce débat vraiment passionnant. Vous pouvez évidemment retrouver le